Donc bonsoir et bon courage, enfin, bon courage à moi et à vous aussi pour cette conférence sur l'oraison. Alors c'est un sujet spirituel dans une ambiance éthylique, donc pas très facile. Mais quand même je crois qu'on va dire quelque chose. Pourquoi on va parler de l'oraison? Parce que dans notre série sur la confirmation, on parle du combat chrétien dont la confirmation nous donne la force. Et toute la vie chrétienne sort du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie. Et toute cette année, on a parlé de la confirmation et de ce qui tourne autour. Et entre autres, il y a un élément important, c'est la prière. On va parler spécialement de l'oraison. Ça nous permettra de dire un mot de la prière en général. Et le 2 avril, parce que le prochain Café Caté, c'est en 15 jours, à cause des vacances, c'est un peu compliqué, c'est le premier samedi libre, hors vacances scolaires. Donc ça fait le 2 avril, le mardi de Pâques. Hein. On parlera des anges et des démons. Le discernement des esprits. Voilà. Alors ce soir, on parle de la prière, comme j'ai présenté ça comme un combat. Hein. Donc je vais d'abord vous dire un mot, vous avez un résumé, et dans mes résumés, je pars toujours de l'aspect naturel des choses. Qu'est-ce que c'est que la prière pour tout le monde, du point de vue de la loi naturelle? Et après, qu'est-ce que c'est que la prière chrétienne? Et là-dedans, qu'est-ce que c'est que l'oraison? Oui. Alors, les philosophes ne seront pas surpris de ma démarche. Parce que l'Église s'appuie toujours sur la raison, et à partir de là, elle montre comment la foi la dépasse, mais quand même accomplit les vœux de la raison. Très important, ça. Et ça vaut que le pape soit bénédictin ou jésuite, pareil. Si c'était dominicain, c'est encore plus vrai. Enfin, quand on choisit le nom de François, c'est bon. Alors, qu'est-ce que la prière? Donc, la prière, c'est un acte de l'intelligence. Hein. Ça va peut-être surprendre les gens un peu pieux et larmoyants. Hein, qui ont une spiritualité dégoulinante ou sensibiliste ou fidéiste. La prière, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des pouic-pouic. Hein. Comment vous pouvez prier mon père? Moi, je suis mauvais en prière, ça ne me fait rien. Rassurez-vous, mon fils. Moi non plus, ça ne me fait rien. On prie dans la foi. C'est un acte par lequel on présente son intelligence au supérieur. Et on peut prier aussi son collègue de bureau. On présente une disposition d'intelligence. Est-ce que tu pourrais me rendre le service de faire telle chose? Vous voyez? En fait, c'est très important. La prière, c'est que, on va le voir, ça vient de la vertu de religion, mais c'est une demande, un acte de notre intelligence qui est présenté à quelqu'un qui nous est supérieur. De même que l'ordre est un acte de l'intelligence. Le commandement vient de l'intelligence, hein, pas seulement de la volonté, par lequel le supérieur dit à l'inférieur, voilà, tu dois faire ça pour le bien commun de la société. Donc là, la différence, c'est qu'on le donne à quelqu'un qui est au-dessus et qui peut faire ce qu'il veut. Voilà. Donc j'ai mis la définition tirée de Saint-Augustin, c'est une demande, et c'est la demande à Dieu des choses convenables, et on va voir quelles sont les choses convenables. Peut-être qu'on verra l'année prochaine avec le pater, si l'année prochaine on prend comme thème le pater, on verra tout ce qu'il faut demander dans la prière. La gloire de Dieu, le salut éternel. Et puis, matériellement, ce qui est nécessaire. Alors, est-ce qu'il est utile de prier? Deuxième point de la première section. On peut s'imaginer que la prière est inutile parce que tout est déterminé par la fatalité, tout est dans une optique déterministe. Vous voyez, le monde est un engrenage où on ne peut rien changer. Il y a un mektoub, c'est écrit, voilà, il y a une espèce de fatalisme où tout s'enchaîne. Une espèce de... Voilà, tout est automatique. Bon. Donc à ce moment-là, la prière, on voit, au moins la prière de demande, on ne voit pas le sens que ça aurait. Et puis il y a un autre sens qui bloque la prière, c'est de dire ça ne sert à rien de prier parce que Dieu s'en fout. Enfin, je m'excuse Maurice, je suis un peu direct. Hein. On est un prof d'université ici, donc il ne faut pas que tu sois choqué. Mais il ne l'est pas, vous voyez. Bon, il s'en fout. Quand vous discutez avec les gens, ils disent « Mais peu, toi, t'es chrétien, mais moi, je suis musulman. L'autre, il est bouddhiste. Le troisième... » Il y avait des gars là qui proposaient la méditation du yoga, là. Troisième, il est rien du tout, parce que le bouddhisme, en fait, c'est pas une religion, c'est une philosophie très, très profonde, mais plutôt du néant que de l'être. Bon, mais on s'en fout, parce que si Dieu existe, il n'est pas au-dessus de tous tes machins. Il s'en fout. Eh ben non, c'est pas vrai. Parce que précisément, Dieu, s'il existe, et je pense que la plupart de vous estimez que Dieu existe, au moins comme cause première de l'univers, et même peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes baptisés, vous avez la foi. Donc il y a un créateur du monde, mais qui respecte le monde qu'il crée avec ses natures. il y a la nature des minéraux, des végétaux et des êtres intelligents. Et donc, quand Dieu détermine que le monde va être créé, il détermine qu'il y aura des causes dans le monde. Et des causes qui ont une valeur en tant que telles. C'est la grande différence, justement, dans la philosophie chrétienne avec d'autres philosophies et d'autres religions, c'est qu'on estime les causes secondes. Les causes secondes, c'est intéressant de les étudier. Les animistes, ça ne les intéresse pas, parce qu'il y a un démon sous chaque... dans la rivière, dans les poissons, dans les arbres et tout. Bon, il y a un génie, bon, très bien. Les causes secondes, on s'en fout. Non, non, les causes secondes ont une importance. Il y a certaines causes secondes, qui sont les anges et les hommes, qui ont un esprit, et qui donc sont libres. Et Dieu fait agir sur le monde ces causes par leur liberté. Et donc Dieu organise tout le cours du monde, mais il organise aussi que les événements viennent de leur cause proche, prochaine, seconde, selon la nature de cette cause. C'est-à-dire que les choses matérielles, eh ben, c'est les lois cosmologiques, les lois biologiques, etc., chimiques, physiques et tout. Celles qui empêchent d'ouvrir la fenêtre, par exemple, qui est un frottement excessif. C'est ici qu'il faut... Bon, on supporte encore la chaleur, c'est bon. Et puis, il y a d'autres, donc, des causes, voilà, que tu dis, les physiciens, les chimistes. Et... Bon, il y a d'autres causes qui relèvent de la liberté. Et la prière, précisément, est un de ces éléments que Dieu considère dans le mouvement qu'il imprime à l'univers. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un passage de saint Thomas. On prie pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen des prières des saints. On ne prie pas pour changer Dieu, si vous voulez, mais Dieu a décidé que certaines choses viendraient de notre liberté. Alors c'est très mystérieux, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Dieu est tout puissant et l'homme est libre. Et il ne faut absolument pas gommer ni la liberté de l'homme, ni la puissance de Dieu. Si vous gommez la liberté de l'homme, vous êtes contre une vérité métaphysique et psychologique et évidente, et qui a des conséquences sociales et politiques fondamentales. Et si vous gommez la puissance de Dieu, ben vous êtes nul aussi, parce que Dieu est quand même puissant. Justement, sa puissance est qui nous fait libre. La preuve de la puissance de Dieu, c'est que je suis libre, disait Kierkegaard, un philosophe moyennement recommandable, mais qui quand même avait senti des choses. Dieu arrive à faire les choses de telle sorte qu'elles viennent de la liberté. Et ce n'est pas contradictoire. Quand on y réfléchit, moi je prends souvent l'exemple de le moment où vous vous mariez, vous dites oui. Ou quand vous êtes ordonné prêtre, ou vous faites la profession perpétuelle, vous faites un acte de liberté. Et vous avez le sentiment que vous n'avez jamais été aussi libre. Vu l'arbre en boule, d'accord, j'espère que vous êtes libre quand vous mariez, hein, ou quand vous faites la profession perpétuelle. Mais en même temps, vous avez le sentiment, vous dites, qu'une espèce de nécessité suave s'est accomplie. Je suis fait pour ça. Alors, ça. Je crois que tout le monde ressent ça. Ça me paraît évident, parce que les gens sont épanouis quand ils ont l'impression qu'ils sont dans l'endroit où Dieu les avait prévus. Donc ça, c'est bien Dieu qui agit, mais justement par la liberté. Donc la prière est utile, et c'est très important, parce que celui qui prie considère que Dieu est intelligent et que Dieu est bon. Vous voyez, le franc-maçon pur et simple, quelle que soit son obédience, sauf des éléments en dehors. C'est comme dans l'islam, il y a des gars qui ont des éléments en dehors de l'islam, des soufis, des trucs comme ça. Mais dans l'orthodoxie islamique, il y a des trucs. Dans l'orthodoxie maçonnique, il y a d'autres. Ben, le gars qui est purement rationaliste, il ne prie pas Dieu. Plus je pense, et moi je peux penser que cette horloge tourne, n'est pas d'horloger. Ça, c'est M. Voltaire. Hein, et qui était déiste, qui disait il y a bien une cause de l'univers, mais c'est pas la peine de la prier parce qu'elle s'en fout. Ce serait honteux de la part de Dieu d'écouter les prières des hommes. Et donc la différence fondamentale entre les rationalistes et les croyants en un Dieu personnel, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, c'est qu'ils estiment que Dieu a une intelligence et une volonté et qu'il peut et qu'il agit en fonction de ça et qu'éventuellement il écoute les prières des hommes si elles sont dans l'ordre de la sagesse. Enfin ça c'est surtout les chrétiens qui insistent sur la sagesse. Que dans l'islam, on insiste surtout sur la volonté. Mais enfin, c'est très important. Oui, il y a quand même une différence. Quand les gens mettent tout sur le même plan, ils ont tort. Ils ont tort parce que le rationalisme et le déisme est vrai parce qu'il affirme qu'il y a un Dieu, mais il est faux parce qu'il fait de Dieu un principe inerte, quoi. Un principe qui n'explique pas plus le cosmos que tout le cosmos s'explique lui-même, quoi. C'est une espèce de point d'interrogation qu'il ne pense pas et qu'il n'aime pas, quoi. Enfin, il pense peut-être, mais en tout cas, il n'aime pas le monde. Bon. Donc c'est utile de prier. Alors maintenant, cette prière, d'où elle vient? Elle vient d'une chose qu'on appelle la vertu de religion, qui est très importante et qui est négligée malheureusement par les chrétiens et par les catholiques spécialement. Hein. Alors notre Saint-Père va nous la rappeler. Il a commencé d'ailleurs en parlant d'un certain nombre d'actes de vertu de religion. Il n'y a pas que la foi, l'espérance et la charité. C'est le fondement du christianisme. C'est l'essentiel, c'est l'âme. Mais le corps, c'est les vertus. Et l'élément le plus important du corps, c'est la religion. Après, la force, la justice, la tempérance et la prudence. Pas dans ce sens-là, mais voilà, il y a tout ça. Bon, plus des tas de choses annexes. Mais si c'est la foi, espérance et charité n'animent pas une action, eh ben c'est zéro. On est des méduses gélatineuses dans un bocal et on estime qu'on est chrétien, qu'on est bien et on ne fait rien. On ne fait pas de génuflexion ou de métanie, si on est de rite byzantin, on fait une métanie, parce qu'on prie dans son cœur et on aime Dieu dans mon cœur, je ne bouge pas. Je n'ai pas besoin de faire de prière, pas besoin de faire de pèlerinage, je n'ai pas besoin de faire d'actes de justice puisque j'aime Dieu. Non, ça ne va pas. Tout cet amour de Dieu s'incarne dans des actions et la plus grande des actions qu'on peut faire, c'est d'adorer Dieu. Ça, c'est une action. Une action dans notre cœur et puis après dans notre corps. Hein. Mais c'est une action, c'est très important. Et la crise, à mon avis, une des parties de la crise dans l'Église actuellement, c'est l'incompréhension de la vertu de religion, qui fait qu'il y a une crise de la liturgie et une crise de la vie religieuse. Vie religieuse au sens où je l'amène moi, mais même vie religieuse des familles. Hein. Dans la vie religieuse d'une famille, ben, on prie ensemble, on fait des choses extérieures qui sont la vertu de religion. C'est simplement que dans notre cœur, on est catho. Et ça se voit, il y a une croix dans la salle à manger, il y a, je sais pas quoi, on va à la messe le dimanche, même s'il y a des régates. Hein. Enfin, on ne va pas à la régate si ça empêche d'aller à la messe tous les dimanches. Bon, sinon, vous n'êtes pas vraiment chrétien. Quoi. Ça étonne quelquefois les gens qui viennent de chrétienté, d'arriver en Occident, et les gens, ils sont chrétiens, voilà, parce qu'ils sont sur un registre de baptême, mais surtout, ils ne veulent pas, comme disait un prédicateur dominicain, le chrétien, sur un plateau de télévision, on le reconnaît parce qu'il dit rien, quoi. Enfin, c'est pas vrai, hein, mais c'est une vacherie de dominicain. Mais, moi, je suis chrétien, mais surtout, je m'impose pas, tout machin. Allez, justement, il faut se bouger. Enfin, vous êtes parmi ceux qui se bougent, et dimanche prochain, et je vous en félicite. Bon. Alors, donc, c'est un acte de la vertu de piété filiale vis-à-vis de la patrie, et de justice vis-à-vis du bien commun, et de charité vis-à-vis des enfants. Donc, vous avez plein de raisons de vous bouger dimanche. Alors maintenant, ça c'est un acte de vertu de religion. Donc c'est très beau, vous voyez. C'est pas un truc cucul à praline, la prière. Hein. Moi quand j'ai découvert ça, j'étais enthousiasmé, quoi. Je disais la prière, c'est pour les vieilles bonnes femmes, ou les carmélites qui bouffent trois pépins de citron, pour ma grand-mère qui est pieuse. Moi je suis pas pieux, puis c'est marre. Quoi. Pour les garçons, c'est important de se rendre compte que la prière c'est viril. Bon, alors vous allez vous rendre compte parce qu'après c'est la bagarre. Hein. Là ce que j'ai dit c'était que l'introduction. Hein. Vous allez voir, après ça chauffe. Bon, la prière chrétienne c'est un combat et une grâce. C'est un combat parce que c'est pas facile. J'avais pas dire, j'ai failli dire un gros mot, mais je fais des progrès, je le dis pas. La prière, bon, j'ai mon métro à prendre, je suis fatigué le soir quand je rentre et tout. Bon, c'est toujours des prétextes. C'est marrant, dès qu'on veut faire un truc débile, alors, tout de suite, c'est cool. Quoi. On le fait, on est bon, on a nos baskets et tout. Dès que c'est bien, enfin, certaines des choses bien, pas toutes, hein, ben, y a un petit effort au début. Enfin, au moins, prendre l'habitude. C'est ça qu'il faut faire des retraites, hein, les gars. Oui, mesdemoiselles, mesdames. J'ai surtout pour les gardes, mais possible. Les demoiselles ou les dames font plus facilement. Mais faites des retraites. Hein. Au moins une dans votre vie, et peut-être tous les 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous ne tiendrez pas si long. 4 jours pour vous mettre zen dans le bon sens du terme. Quoi. Et donc, voilà. Alors, la prière, on a une espèce de lourdeur que les pères du désert appellent ça l'acédie. L'acédie, c'est un vice enfin, qu'on traduit maintenant, malheureusement, par la paresse. Mais la paresse, c'est une traduction moderne, enfin, depuis 4 siècles. Le terme technique du péché de paresse, c'est l'acédie. Et il y a un bouquin pas mal qui a été écrit par Pascal Hyde et Adrien sur les 7 péchés capitaux. Et là-dedans, justement, il parle bien de l'acédie. L'acédie, c'est la tristesse du bien spirituel. La tristesse du... Voilà, c'est pas là. Et les pères du désert savent que si on va au désert pour prier Dieu, bah, on a une lourdeur, on a, voilà, la vie chrétienne, c'est un combat, c'est pas des consolations du soir au matin. Hein. Donc, il y a un combat. Hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça le combat de Jacob. Bon. Et puis, en plus, il y a une grâce, parce que... il y a une grâce, parce que la prière que nous allons faire, c'est une prière chrétienne. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait que on adore le Créateur du monde, on le remercie, on lui demande pardon, on lui demande des grâces, on lui demande des choses. Bon. Ça, naturellement, l'intelligence humaine peut voir que... là, le patron, on sent la main du chef.
C'est mieux, là ? C'est.
Donc, tout ça, naturellement, l'intelligence humaine, vous voyez déjà les Romains et tout ça, les Grecs s'étaient rendus compte que il fallait s'occuper des dieux de la cité pour obtenir des choses. Et je vous ai d'attendre dans ce bouquin-là le résumé du film Gladiator, là, où il y a une certaine piété filiale vis-à-vis de Rome, et c'est assez juste. Mais en fait, c'est normal, naturellement, qu'on considère la patrie comme quelque chose de divin, dans un sens large, parce qu'il nous vient des biens qu'aucun homme ne pourrait donner. Alors aujourd'hui, que vous êtes tous individualistes, c'est lamentable, enfin pas vous, mais votre cousin ou votre collaborateur, voilà, mais on a oublié ça. Mais la patrie, la famille, les grands génies, c'est divin, au sens que je ne pourrais jamais les faire, moi. Si je m'organise bien, je peux faire des choses, mais je ne peux pas faire un génie, je ne peux pas faire mes parents, je ne peux pas faire la patrie. Donc il y a une culte par rapport à eux. Alors ça, les anciens s'en étaient rendus compte. Il faut reconnaître Dieu comme l'auteur du monde, il faut l'adorer, il faut le remercier, hein. Il faut lui demander pardon, ça c'était plus obscur, mais enfin quand même, quelquefois ça déviait vers des sacrifices humains affreux, bon, etc. Et puis lui demander des biens. Alors dans la prière chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Je vous ai mis deux définitions, celle de Don Marmion, qui est un bénédictin, qui a écrit des beaux livres, Le Christ idéal du prêtre, Le Christ idéal du moine, très beau livre. Un entretien d'enfant de Dieu avec son Père des cieux sous l'action du Saint-Esprit. Oui, c'est une belle définition, ça, de la prière chrétienne. On va la retrouver avec Sainte Thérèse d'Avila pour l'oraison. Un entretien d'enfant de Dieu avec son Père des cieux sous l'action. Donc, vous voyez, la prière chrétienne, c'est quelque chose de filial. Hein. Et puis, Charles de Foucault, c'est penser à Dieu en l'aimant. Mais c'est pas simplement réciter des formulaires ou présenter des demandes ou donner sa révérence de créature, mais c'est également aimer. Donc à cause du péché originel, cette prière est difficile et il faut dire au Christ, Maître, apprends-nous à prier. Alors peut-être qu'on le fera l'année prochaine, peut-être qu'on changera un peu le programme et qu'on prendra le pater pour des raisons un peu techniques de préparation. Et donc on verra plus le contenu de la prière avec les sept demandes du pater. C'est absolument sublime, hein, le pater. Hein. Enfin, vous le saviez déjà, mais quand vous aurez écouté les conférences, vous le saurez encore mieux. Bon. Mais enfin, on verra ça avec les organisateurs. Mais en tout cas, voilà, il faut que le Christ nous apprenne à prier. Alors j'ai rajouté une belle citation de Tertullien que j'aime beaucoup, parce que ça console, ça nous console dans les périodes, enfin ça nous console tout le temps, mais en particulier quand il y a des choses un peu lourdes. La prière et la souffrance sont les deux seules forces devant lesquelles Dieu s'incline. C'est magnifique, hein. La prière et la souffrance. La souffrance offerte, évidemment, la souffrance dans l'amour. Mais c'est pas un truc de faiblesse, vous voyez ça, il faut pas croire, c'est extrêmement viril, hein. Parce qu'arriver à faire justement de la souffrance un acte de prière, ça relève aussi vraiment de la charité et de la force. Alors maintenant, on va parler de l'oraison mentale. Parce que c'est quelque chose de très particulier et que ça en vaut la peine. L'oraison mentale. Alors d'abord la définition, rapidement. Hein, et puis ensuite le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il s'est recommandé de se consacrer à l'oraison mentale. Alors, c'est une prière, donc dans la prière chrétienne, donc prière filiale, il y a différentes formes de prière. Hein. Le chapelet, bon, l'assistance à la messe, c'est le sommet des prières, c'est aussi sacramentel. On en parlera dans la série sur l'Eucharistie. Bon. Mais il y a beaucoup de types de prières. Bon, l'office divin, le chemin de croix, tout ça. Bon, la prière du matin et du soir en famille. Enfin, il y a toutes sortes de prières. Mais alors, il y a là un type particulier. C'est l'oraison parce qu'elle est différente de toutes les autres, parce qu'elle est prolongée, elle est individuelle et elle est intérieure. Donc c'est les trois caractéristiques de l'oraison. On y consacre un certain temps. Vous savez ce que disait Thérèse d'Avila, je promets le ciel à quiconque fait un quart d'heure, pas 10 minutes, hein, un quart d'heure d'oraison par jour. Un quart d'heure, voilà, c'est quand même un quart d'heure. Hein. Bon, donc, il y a un certain temps, on consacre du temps à Dieu. Et c'est donné gratuitement, vous voyez. Je crois que l'oraison est un acte très contre-révolutionnaire, au bon sens du terme. Hein. C'est qu'il va contre l'utilité d'abord. Pourquoi l'oraison? Parce que ça ne sert à rien. Et normalement, ça devrait vous enthousiasmer. Mais comme vous êtes des enfants de la civilisation de la production, vous vous en foutez. Mais pas moi. Moi, ce qui m'enthousiasmait quand j'avais votre âge, en dessous un peu, quoi. À votre âge, ça devient un peu plus sage. C'est justement ce qui était inutile, quoi. On a besoin de gens qui cultivent l'inutile, c'est eux qui changent tout. Les mecs sont toujours dans l'efficacité, et bon, d'accord, ils font que le TGV arrive à l'heure, ce qui est quand même pas mal aussi. Hein. Mais j'espère qu'ils font aussi oraison. Même à la SNCF, c'est pas interdit. Dans les cadres. Hein. Parce que certains ont fait Ginette aussi dans les cadres de la SNCF. Bon. Donc ils ont été éduqués par les jésuites. Donc théoriquement, ils devraient. Enfin, s'ils avaient été éduqués par les jésuites à l'ancienne mode, comme un certain jésuite dont on parle beaucoup, ils feraient oraison. Quoi. Parce que le vrai jésuite, je vais vous donner sa définition. J'anticipe un peu sur la question que vous allez me poser à la fin. Le vrai jésuite, c'est celui qui fait une heure d'oraison par jour. À ce moment-là, il n'est pas jésuite au sens où on aime, vous voyez, on aime bien dire jésuite comme un terme critique. Ouais. Un jésuite qui fait une heure d'oraison par jour, c'est un mec formidable. Moi, j'en ai connu. Hein. Non, je n'ai pas connu pas seulement le pape, mais j'en ai connu d'autres. Le cardinal Vanois qui vient de me préfacer mon livre qui vient de paraître sur le mystère du Christ, j'ai une préface d'un cardinal jésuite. Hein. Mais non. Et il est venu nous donner des cours, mais rien que de le voir, on allait mieux, quoi. Non, mais c'est des gars, ça pourrait concilier avec l'humanité, avec les jésuites, qui pour nous est encore plus extraordinaire, quoi. On le voyait, mais d'abord, c'est un puits de science, c'est le spécialiste mondial de l'épître aux Hébreux. Plus spécialiste de ça, tu meurs. Bon. Mais il allait en Corée à 85 ans faire ses cours sur l'épître aux Hébreux. Bon. Et puis, il venait avec nous à l'office, il faisait son oraison, il disait son chapelet. Voilà, donnez-moi beaucoup de jésuites, comme ça. J'ai connu aussi le père de Marjorie, qui est décédé maintenant, qui était un jésuite altmodisch, hein, de l'ancienne école. Donc ça, c'est du vrai jésuite, ils font en raison. Et c'est qu'ils ont une part de gratuité dans leur vie. C'est pas seulement des mecs efficaces. Hein, parce que les jésuites sont efficaces. Redoutablement. Alors, ensuite, c'est une prière individuelle. Mais c'est prolongé parce qu'on est avec un ami, on prend du temps. Bon. Individuel, c'est un temps de désert, de solitude. Il n'y a pas de forme d'oraison imposée, chacun a sa voix, il n'y a pas de formule, enfin il y a des conseils, mais c'est très large. Hein, Saint Jean de la Croix dit, bon, il y a des chemins divers pour chacun, enfin il y a des grandes lignes, des grands conseils, mais il y a quelque chose d'unique, en fait, je crois que dans l'oraison se dévoile notre personne, notre personnalité spirituelle se taille dans l'oraison. Et la preuve, c'est quand on arrête, on n'est plus le même homme. Si vous avez un prêtre qui est homme de raison, bah vous, peut-être il ne vous l'a pas dit, mais vous verrez qu'il est pas, il a quelque chose de spécial. Un prêtre ou une religieuse ou une grand-mère. Enfin, voilà. Ça fait que dans l'homme, il y a une espèce de lumière qui vient d'au-delà de lui. Et c'était le cas de mon cardinal Jésus. Bon, c'est individuel, c'est un temps de désert personnel. On est dans un rapport tout à fait spécial avec Dieu. Et c'est intérieur, parce que c'est dans le silence, et on emploie ces mots à soi. Et en plus, on va le voir, le fondement de l'oraison est une vérité métaphysique extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la présence d'inhabitation. Dieu habite en nous, la Sainte Trinité habite en nous. Et ça se manifeste par la grâce sanctifiante. Mais d'abord, elle habite en nous réellement. Et quand Sainte Thérèse d'Avila, donc une grande refondatrice du Carmel, hein, vous savez, c'était une castillane, d'origine juive d'ailleurs en partie, et qui a refondé le Carmel en Espagne, et ensuite ça s'est répandu dans le monde entier, spécialement en France. Et elle avait l'impression que Dieu était dans son âme. Elle avait un état d'oraison qui faisait qu'elle expérimentait presque. Et alors certains confesseurs lui disaient, est-ce que vous n'êtes pas un peu alumbrada, hein? Est-ce que vous n'êtes pas un peu allumé, quoi? Enfin, l'alumbrada en Espagne, c'était, vous étiez arrêté et mis dans la prison de l'Inquisition à l'époque. C'est des gens qui étaient assez proches de l'hérésie, quand même. Et qui étaient trop mystico-dingo, quoi, pour simplifier. Alors, en fait, elle ne l'était pas du tout. Et alors, elle avait plein de confesseurs, dont Saint-Pierre d'Alcantara, dont des tas de jésuites illustres. Et puis, elle avait des dominicains aussi. Hein. Évidemment. Bon, ça, je vous raconte l'histoire pour faire un peu de polémique. Et un de ses confesseurs, je ne sais plus lequel, mais c'était une pointure absolue, de prof de théologie espagnole, qui lui a dit, non, c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait fondé sur la réalité de l'âme, de la grâce, et de la métaphysique, de la création et de la grâce. Donc Dieu est bien en nous, réellement, Père, Fils et Saint-Esprit, si je suis en état. Donc c'est ça qui fait que l'oraison est vraiment quelque chose d'intérieur. Et elle compare l'âme à un palais, un château, hein, avec des demeures successives, et le seul chemin qui conduit vers la demeure du roi à l'intérieur, eh ben, c'est l'oraison. Ce qui fait qu'elle donne une définition que je vous ai mise ici. Je vous l'ai même mise en castillan pour les gens cultivés. Maintenant, vous parlez tous 3-4 langues. Alors, pour ceux d'entre vous qui comprennent un peu le castillan, je l'ai mis tel que je l'ai trouvé dans le texte de la vie de la vie de la madre de sa vie, hein, qui est le livre qui a converti Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, pardon. Donc c'est la lecture de ce livre. Elle a eu une insomnie et il y avait ce livre dans la maison de ses amis. Elle l'a lu dans la nuit, la vie, le récit autobiographique de Sainte Thérèse d'Avila. Et en fermant le livre, elle a dit « Ceci est la vérité ». C'est impressionnant. Hein. Alors donc, voilà, je vous ai mis l'oraison mentale n'est rien d'autre à mon avis, hein, mi parecer, qu'un commerce d'amitié, tratar de amistad, où on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. C'est très beau la définition. Hein. Estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Avec qui, vous voyez, parce qu'en fait, dans l'oraison, en fait, l'oraison, c'est se mettre dans le réel, quoi. C'est pas dire simplement, évidemment, mon Dieu, je vous aime, on va dire ça. Mais le plus important, c'est que Dieu nous aime d'abord. Oui. Et l'oraison, c'est que ça devient conscient. Oui. C'est un quart d'heure de conscience de cette vérité-là. Voilà. Bon, donc voilà un peu ce qu'on peut donner comme définition de l'oraison et pourquoi il faut faire oraison. Bon, alors, les livres en parlent, évidemment, je vous ai résumé un petit peu. Hein. Il y a un côté, bon, les auteurs disent c'est un devoir, un besoin et un droit. Un devoir, oui, un devoir relatif, il faut adorer Dieu, c'est un temps d'adoration et c'est un temps de gratuité. Donc, c'est peut-être le plus grand des devoirs. C'est celui que Dieu exige le moins coercitivement. Mais je crois que je vous avais cité, ou non, j'ai cité dans le sermon d'hommage à Benoît XVI que j'ai fait à la fin du mois dernier. Je citais une phrase de son maître spirituel, Romano Guardini, qui dit qu'en fait que Dieu fait confiance à la capacité chevaleresque de notre esprit. C'est-à-dire justement, il fait appel à ce que nous pouvons faire gratuitement sans être forcés. Et je crois que l'oraison, c'est tout à fait chevaleresque. Donc il y a un côté de... Voilà, c'est... il y a un côté de devoir, mais de devoir d'un sens très large, hein. Un temps d'oraison gratuit qui est donné à Dieu, c'est un besoin, enfin ça doit être ressenti comme un besoin, et je crois qu'en creux ça l'est toujours plus ou moins, parce qu'il y a quand même un manque dans nos vies, surtout nos vies très citadines, très agitées, et il faut le compenser, vous voyez. Parce que quand je viens moi pour faire le cours, je viens d'un endroit où il y a 700 000 bovins et 200 000 humains dont moi, mais bon, c'est un endroit très campagnard, donc évidemment j'ai une transition assez brutale, hein, entre la Mayenne et la ville. Et je me disais, au fond, nos ancêtres ne vivaient pas comme les gens vivent actuellement à Paris. Oui, mais les gens qui vivent actuellement à Paris, ils ont les vacances. Et ils ont le week-end, le sacro-saint. Et ils se lèvent à 10h du mat, enfin pour ceux qui se lèvent tôt, le week-end, quoi. Hein. Mais c'était pas, autrefois, ce n'était pas le même rythme. Hein. C'était lever tous les matins à la même heure. Bon, le dimanche, il y avait peut-être un quart d'heure de rap, quoi. Hein. Donc on faisait la grasse mat jusqu'à 7h. Quoi. Mais bon, mais je veux dire, c'était pas... C'est, oui, et bon, il y avait aussi 120 fêtes dans l'année. Hein. Donc il n'y a pas de vacances, mais il y avait des fêtes où on arrêtait. Mais c'était un rite, vous voyez, qui était... C'est pour ça que les vacances et le week-end, d'une certaine façon, c'est... Voilà, c'est des soupapes, quoi. Sinon, je crois que les gens pèteraient vraiment tous les plombs, quoi. Bon. Mais en même temps, il faudrait les week-ends spirituels, quoi. C'est que... Il faut vraiment avoir une respiration intérieure. C'est ça que je vous dis, faites des retraites, voilà, tous les 3 ans au moins, et faites oraison. Parce que là, et vous ressentirez qu'il y a un besoin. Je suis frappé parce que dans le métro, presque à chaque fois, je découvre des nouvelles affiches qui ont plus ou moins rapport à la religion. Soit par l'intermédiaire des exorcismes, soit par l'intermédiaire des péchés capitaux, soit... Enfin, il y a un appel de Dieu en négatif, quoi. Soit par la pub pour le yoga que m'a fait le type sur le boulmiche, là, quand je suis remonté, là. Parce que, voilà, on est tellement étouffé que, bon, quand on vous propose du yoga, bon... C'est quand même mieux quoi, que courir partout. Mais alors, non, et nous qui avons Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, c'est pas la peine d'aller étudier les Upanishads. Enfin, si vous les étudiez en connaissant des Saint Jean de la Croix, ça va. Mais si vous les étudiez comme des gamins sans rien connaître, ben vous risquez de vous planter. Parce que vous allez la mystique hindoue ou bien bouddhiste, vous allez vous dire c'est magnifique. Parce que vous ne connaîtrez pas nos richesses. Et le grand drame de l'Occident, c'est qu'il ne connaît pas ses richesses spirituelles. Et puis un droit, parce que au fond, c'est le lieu où nous affirmons notre liberté. Et la liberté, c'est bien. On n'est pas fait uniquement pour le plaisir, on n'est pas fait pour la nécessité, vous avez votre boulot, vous avez vos détentes, d'accord, mais il y a plus que ça. Donc c'est un droit d'être avec Dieu. Et c'est un droit que personne ne peut nous enlever. J'ai lu un bouquin de Léon Blois. Léon Blois est un original de la fin du 19e, début du 20e, qui est un homme un peu surexcité, mais assez génial finalement, qui est à l'origine de la conversion de beaucoup d'intellectuels, dont Jacques et Raissa Maritain. Et alors il décrit la vie qui était celle des gens, des milieux pauvres à Paris, à la fin du 19e. Eh bien, bonjour, hein. C'était, la vie des pauvres, c'était vraiment horrible. C'est horrible, hein. Et c'est le seul lieu où ils pouvaient aller tranquille, c'était les églises. On pouvait aller dans l'église, là on pouvait s'asseoir, il faisait chaud, et puis on pouvait évidemment parler avec un frère. Les églises. C'est quand même très beau, hein. Voilà, je crois que l'église est le lieu de la liberté pour tout le monde. C'est pour ça que si elles sont ouvertes, c'est mieux, quand même. Bon, mais ça suppose qu'il y a un gars pour garder l'église, ça suppose qu'il faut s'engager dans les églises. Bon, alors voilà. Donc on a dit, voilà, l'oraison, un commerce d'amitié avec Dieu, dont on sait qu'il nous aime, c'est surtout ça, hein, l'exercice de la foi dans l'amour de Dieu. Alors, le pourquoi, bon, un besoin, un droit, un devoir. Et maintenant, on va voir deux choses. La part de Dieu et la part de l'homme. Parce qu'heureusement, Dieu travaille aussi. Hein. Enfin, il fait même le principal du travail. Alors, la part de Dieu. Ça, c'est très important. En fait, dans l'oraison, on fait un peu ce qu'a fait la Sainte Vierge au moment de l'Annonciation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis en relation avec la Sainte Vierge Marie. Et de ce fait, comme elle a dit oui, elle est rentrée dans le courant de la Trinité. La Trinité est dans mon âme. Hein. Le ciel, c'est Dieu, et Dieu dans mon âme. Le jour où j'ai compris ça, ma vie a été transformée. Dit Élisabeth de la Trinité. Donc en fait, dans l'oraison, Dieu prend, on se livre, si vous voulez, à cette réalité. Mais en fait, je crois que j'ai dit, enfin, ceux qui m'ont entendu dans d'autres circonstances savent que je dis souvent, la foi, c'est d'aller plus loin dans le réel. C'est pas s'évader du réel, c'est dans... Et je crois que l'oraison est le point culminant de la foi. Parce qu'on descend dans la plus grande vérité, vérité essentielle du christianisme, comme dit le père Garrigou Lagrange, qui est la présence de la Trinité dans notre âme. Et là, il se passe des choses. Le Père nous apaise, on engendre le Fils, et Saint-Esprit nous échauffe. Nous porte à l'incandescence voulue. Alors d'abord, on peut faire ça parce que, je l'ai noté, Dieu nous en donne le pouvoir, parce qu'il habite en nous. Donc il y a une présence d'immensité, certainement parce qu'il nous crée, mais il y a aussi une présence d'habitation. Et donc là, je crois que c'est très intéressant parce que dans l'oraison, je crois que se révèle le plus spécifique du christianisme. Voyez. On peut toujours dire à Dieu, tu es mon créateur. Mais seul, au fond, le chrétien dit à Dieu, tu es mon père. Et ça change tout. C'est pour ça que notre Père est vraiment une prière absolument bouleversante parce que Dieu nous engendre par la grâce et il est présent. Et non seulement, si vous voulez, il est présent en nous comme il est présent dans les minéraux, les végétaux et tout le monde entier, qui n'y peuvent mais, si vous voulez, Dieu est présent en eux. Hein, Saint François avait cette conscience très forte de la présence de Dieu en toutes choses. Vous savez que les chartreux, enfin vous ne le savez pas, mais vous allez l'apprendre ce soir, quand ils rentrent dans leur cellule, enfin ils ont quatre pièces quand même. Hein. Quatre pièces. Plus on est contemplatif, plus il faut de mètres carrés. Bah, au début, quand j'ai fait ma fondation, au début, avant, comme étudiant, je ne m'occupais pas trop du fric, parce que bon, voilà, je faisais des petits boulots pour compléter la pension chez mes parents. Mais donc, et mes parents me disaient, ah, bah, depuis que tu es religieux, tu es obligé de t'occuper du fric. Pour faire votre pauvreté, j'ai été obligé de trouver des millions. Évidemment, pour construire le couvent, il faut trouver des millions. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un truc un peu particulier. Mais donc, parce qu'il faut, plus on est content, plus il faut de la place. Parce qu'on fait tout, on est 16 personnes à faire toutes nos opérations à peu près en même temps. Hein, notre vie quotidienne, la vie de la paroisse, la vie de l'université, et la vie du bureau. Et tout ça dans le même endroit. Donc, il faut du terrain. Donc, n'hésitez pas à donner à la quête au bout. Là. Ben, mon économe sera content. Bon, parce qu'on est des forts mendiants, donc on tend la main de temps en temps, t'as pas 100 balles. 100 euros, c'est encore mieux. Mais alors, ceci dit, pour vous dire que quand le chartreux rentre dans ses quatre pièces, c'est quand même pas mal, quatre pièces. Hein. Deux en haut, deux en bas. Première chose qu'il fait, il prend le premier objet qu'il trouve et il baise. Pourquoi ? Parce que Dieu est présent en toute chose. Évidemment, il fait ça dans l'esprit chrétien, bien sûr, ce n'est pas un esprit panthéiste. Hein. Mais c'est très beau. Et Dieu est présent en toutes choses, évidemment. Il est encore plus présent dans l'évangile. On baisse l'évangile après l'avoir chanté, ou on baisse son rosaire quand on l'a récité. Bon. Donc il y a la présence d'immensité, bon, qui est partout, hein, mais il y a la présence d'habitation qui est dans les, dans l'âme, dans l'esprit, qui est dans l'amour de Dieu, et qui donc peut être actif, si vous voulez. Être actif face à la présence de Dieu. Dieu est en moi, et je l'accepte, enfin je dis oui, je cherche à réaliser que je suis au bout d'une action créatrice, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est la seule façon de se supporter soi-même, hein. Parce que la pure introspection psychanalytique, qui peut parfois rendre certains services pour des mises au point, simplement, si on s'y attarde pas trop, peut être extrêmement dangereuse si elle n'est pas animée de la dimension transcendante. Parce que, personnellement, je suis insupportable. Enfin, on est vraiment tellement blessé par le péché que nous contempler nous-mêmes est une source de destruction. Si on n'est pas... Si on ne sait pas qu'une main infinie nous porte et nous aide. Oui. Ben c'est pas facile de supporter soi-même. Ou alors c'est parce qu'on ne se connaît pas. Hein. Mais quiconque a entrevu sa conscience se demande comment Dieu peut le supporter sur la surface de la terre. C'est ce que dit saint Ignace. Je n'ai pas dit notre père saint Ignace, enfin, le père Ignace de notre Saint-Père. Bon. Voilà. Mais je connais beaucoup les exercices. Hein. Je les ai faits 12 fois. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, Dieu est présent partout, mais nous le réalisons et nous acquiesçons à cette présence, vous voyez. Et c'est quand même quelque chose de merveilleux, vous voyez, parce que voilà, Dieu me donne le pouvoir de penser à lui qui est dans mon âme. Ce qui est quand même incroyable quand on y pense. Mais justement, on n'y pense pas. C'est ça qui est drôle. Voilà. Donc, on répond à Dieu. Hein. Dieu nous dit pas seulement tu es mon œuvre, mais tu es mon fils. Être le fils de quelqu'un, c'est sympa. Enfin, les orphelins le savent, c'est ceux qui ont eu des problèmes, sérieux problèmes avec leur papa, savent que c'est quand même bien d'être bien avec son papa. Ça fait que la base arrière est assurée. Voilà. Donc soyez bien pour vos enfants si vous en avez. C'est éduquez-les. Quoi. Les pourrissez pas. Faites pas ce que certains de vos parents ou grands-parents ont fait avec vous. Je les connais, c'est ma génération. Donc, ils sont très sympas, hein, mais ils ont des excuses, mais. Maintenant, vous êtes peut-être appelé à être un peu meilleur, plus performant, un peu plus exigeant. Parce que sinon, vos enfants s'écrouleront hein, dans le monde qu'ils vont avoir à faire. Alors ensuite, Dieu nous invite évidemment à faire usage du pouvoir. Il nous dit, voilà, tu es mon ami, tu es mon fils. C'est comme si le roi vous disait, ben, écoute, tu peux venir déjeuner à Versailles, pas simplement à l'assistance publique, selon on assistait au grand souper, je ne sais pas quoi, du roi, à certaines circonstances, mais également dans les petits salons, et tu es invité permanent, quoi. Même si tu n'as pas d'épée, tu en prendras une à l'entrée. Pour moi. Mais vous voyez, bon, le gars qui ne se pointerait jamais, je crois que sa cote diminuerait un peu, quoi. On lui dit, mais écoute, viens, tu es mon ami, quoi. C'est forcément mon sujet, mon ami. Et nous, Dieu nous dit ça. Hein. Là, c'est quand même intéressant de savoir. Donc voilà, c'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut prier sans cesse, parce que ça c'est très développé, on en parlera peut-être une autre fois dans la prière du cœur, la prière continuelle des orientaux. Hein. Donc le cœur prie sans cesse en se remettant dans cette présence de Dieu. Et alors ensuite, donc Dieu nous donne le pouvoir de prier parce qu'il est en nous, Dieu nous invite parce qu'il nous dit, bon ben rentre chez toi. C'est bien d'avoir une patrie quand même. Moi en vieillissant j'y pense de plus en plus. Hein. Peut-être que Maurice y pense un peu aussi, parce que quand on vieillit, en fait, on rajeunit vers l'éternité. Et donc, c'est sympa, parce que là, on sera enfin chez nous. Enfin, on est aussi chez nous, ici, avec le patron qui est sympa, et puis vous, qui on est dans l'amitié, c'est vrai. Et c'est très important, ça, hein, d'être dans l'amitié, d'avoir des réseaux et tout. Mais, bon, c'est quand même pas... Tout n'est pas lisse, hein, la vie est rugueuse, quoi. C'est même un critère de vérité. Le réel est rugueux, disait Simon Imbel, que j'aime beaucoup. Il ne faut pas supprimer toutes les rugosités, sinon on est dans le mensonge, dans la fusionnalité. Mais au ciel, ça ne sera plus rugueux. Et ce sera totalement vrai. Ici, ça ne peut pas être vrai sans être rugueux. Tandis qu'au ciel, donc c'est bien. Donc on a assez envie d'y aller vite. Enfin, j'espère. Enfin, vous avez plein de projets entre les deux, donc réalisez-les. Mais dans 5 minutes ou dans 50 ans, ce sera fini. Alors peut-être qu'on reviendra, moi je pense que je reviendrai un peu par là, avec dans l'espace-temps de l'univers de Loire, pour voir un peu quelle a vraiment été votre réaction quand je vous ai parlé. Non, c'est pas pour vous fliquer. Hein. Mais c'est une idée que j'ai trouvée chez Fabrice Adjadj, qui a toujours plein d'idées. Voilà, donc on se refile des tuyaux en train de l'être. Alors, donc ensuite, donc on est invité. Et puis en plus, alors après, il y a l'opération un peu mariale, si vous voulez. C'est-à-dire que le Père nous apaise, on engendre le Fils, et le Saint-Esprit nous unit. Oui. Comme la Vierge à l'incarnation. Le Père apaise. Oui. Le silence. Oui. On terminera par une citation de Bossuet. Tibi silentium laus. Le silence est pour toi une ange. Donc on a besoin de rentrer dans la paix. D'ailleurs, le contact avec une abbaye, c'est ça. C'est... Ou même avec un couvent dominicain, on est un peu plus agité. Mais... D'ailleurs, on a moins d'hôtellerie, sauf pour le service après-vente. Donc vous pouvez venir parce que vous avez fait le café-café. Mais sinon, vous allez à Solem ou à Fontainebleau. Ou à Vis. Comme... Mais quand on est en contact, ce qui est frappant, moi qui m'a frappé la première fois, je sortais à peine de l'agnosticisme hein, chez les moines, c'est qu'il y avait chez eux quelque chose qu'on trouvait nulle part ailleurs. Hein, une espèce de... Une liberté, une autonomie. On voyait des hommes. Quoi. Et c'est rare de voir des hommes. Enfin, vous croyez peut-être qu'il y en a beaucoup, mais quand vous aurez mon âge, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et voir des hommes qui ont mis leur vie, si vous voulez, qui ont, avec leurs défauts, bien sûr, mais tu sais, vous voyez, qui ont mis, qui réalisent à la fois l'idéal de la densité aristotélicienne, et puis, ou de Saint-Exupéry, d'ailleurs, et puis celle des béatitudes. Donc c'est très beau. Donc le Père nous apaise, vous voyez. Ça c'est, il nous simplifie, parce que la vie chrétienne, c'est quand même beaucoup, beaucoup une simplification, vous voyez. Moi je suis frappé, enfin c'est vrai que spiritualité dominicaine ou franciscaine, c'est, arrête ton cirque et avance, quoi. Enfin, je vous simplifie à mort, hein, là, d'accord, les gars. Bon. Mais je crois que c'est aussi bon. C'est la spécialité du coup de pied au derrière de temps en temps, quoi. La réparation des 150 000 km. Hein. Bon, il y a le suivi dans la paternité spirituelle. Moi, j'aime bien faire la réparation. On dit, ouais, écoute, qu'est-ce qui était, t'as quoi comme problème? Ah, bah, finalement, non, bah, allez, tu redémarres, quoi. Non, bon. C'est pas la panacée, je suis d'accord. Quelquefois, il faut être un peu plus subtil. Mais souvent, on se crée des tas de problèmes autodestructeurs. Et c'est vrai que la grande spiritualité, c'est quand même que le soleil se lève, enfin, que j'existe, et que j'ai la grâce de Dieu, que je peux aller à la messe, que j'ai été baptisé, que je peux ouvrir mon évangile, que saint Thomas d'Aquin a été créé par Dieu. Enfin, c'est formidable. Et saint Ignace aussi. C'est fou. Mais là, c'est quand même incroyable que l'Église peut faire ce qu'elle fait, quoi. Enfin, on en parlera à la fin dans les questions que vous allez me poser. Bon. Alors, le Fils, bon, ça c'est le Père qui nous apaise, oui. Un peu comme le Père, il se couvre de son ombre la Vierge Marie, vous voyez. Hein, il fait qu'on devient des temples du Saint-Esprit, mais c'est le Père qui fait ça. Saint Ignace d'Antioche, et dans les dernières lettres qu'il a écrites, a dit « J'entends en moi une eau qui murmure, vient vers le Père. » Une eau qui murmure, vient vers le Père. C'est extraordinaire. Hein. Il allait au martyr se faire bouffer par les lions. Hein. Ensuite, on engendre le Fils d'une certaine façon. Parce que c'est le verbe, vous voyez, le christianisme, c'est la religion de la sagesse. Hein. Ça, c'est très important dans la contraposition par rapport à, je dirais, à la fois aux idéologies modernes et à l'islam. L'islam insiste sur la puissance. Le christianisme ne nie pas la puissance, mais la met toujours dans la sagesse. Le primat de la sagesse et de l'amour est capital dans le christianisme. Et donc, c'est le saint, c'est le verbe qui nous donne la sagesse et qui nous aide dans l'oraison, par les dons du Saint-Esprit. Qui fait que ben on est pénétré de quelque chose qu'on est en train de méditer, sans même peut-être s'en rendre compte, mais on n'aura plus jamais le même rapport avec une certaine vérité. Oui. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que tous les chrétiens font cette expérience. Il y a certaines choses, ben, après, soit un sermon, soit une lecture, soit une prédication, soit une oraison, mais spécialement dans l'oraison, on n'est plus le même par rapport, je dirais, à la. Son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Ben, on l'a entendu 600 fois. Mais à la 601e, on est dans le règne qui n'aura pas de fin. Même si on va souffrir, même si on va mourir. Les martyrs, c'est ça. Hein. Les martyrs sont déjà dans le règne victorieux. Et puis, le Saint-Esprit, il survient en nous en réchauffant notre charité. Ben, le Saint-Esprit surviendra, etc. Donc, quand on fait oraison, on se livre à cette action divine. Donc c'est Dieu qui fait la part principale dans l'oraison. Ça, c'est un point très important. parce que sinon on se décourage tout à fait. L'oraison, c'est souvent un temps de sécheresse, d'attente, de combat et même d'ennui. Hein. Mais il faut faire oraison. Moi, je ne sais pas si je pourrais continuer indéfiniment les cafés catés, mais si vous retenez ça, peut-être que vous irez au ciel. J'espère. Tâchez d'y aller. Bon. Cas, c'est mieux d'aller au ciel d'aller en enfer. Pour des tas de raisons que j'ai déjà expliquées dans les cafés catés sur les femmes indiennes. Alors maintenant, les conditions, maintenant la part de l'homme. Parce qu'il y a Dieu et il y a l'homme aussi. Hein. Alors on va parcourir, mais vous avez mon résumé, vous pourrez le relire pour vous préparer à Pâques ou dans la prolongation de Pâques. Donc il y a des attentions, des conditions pratiques, alors ça c'est à vous de trouver. Hein. Dans l'église, vous pouvez vous arrêter avant d'aller à votre travail en revenant, dans votre coin icône chez vous, enfin, le moment, le lieu, tout ça c'est à voir. Avec des tâtonnements quelquefois pour trouver les meilleures conditions extérieures, même la position, tout ça. Ça, j'ai pas le temps de développer. Mais les conditions intérieures, c'est la pureté d'intention. On ne va pas faire oraison pour faire un exploit spirituel, parce que sinon, on va arrêter très vite. On va faire oraison pour rendre compte qu'on est nul. Donc, c'est encourageant, parce qu'on est sûr du résultat. On vérifiera de façon plus théologale ce qu'on savait déjà psychologiquement, on est assez nul. Mais le fait que ce soit vérifié théologalement, ça fait que ça peut être porté, que c'est pas négatif. Bon, pureté d'intention. Humilité. Hein, l'humilité, ça consiste à accepter la nature humaine. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'écartent du christianisme, du catholicisme et de la pratique parce qu'ils refusent la condition humaine. Et la condition humaine, c'est la distraction. Et le péché, etc., etc. Il est impossible à l'homme de rester sans distraction le temps d'un paternoster, nous dit saint Thomas d'Aquin dans un commentaire de saint Paul. Le temps d'un paternoster. Donc voilà, il y a des distractions. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben non, moi je prie pas parce que je suis distrait. Mais non, c'est pas, ça va pas. On est distrait, on revient. Il y a le père Caffarel qui a écrit de très belles choses. Relisez le manuscrit autobiographique de sainte Thérèse de Lisieux. Donc voilà, il faut accepter son néant, accepter l'éventualité de rechute, etc. Oui, je crois que vraiment le pire pour l'oraison, c'est vraiment c'est l'orgueil qui fait qu'on se dit c'est pas bien, donc j'arrête. Ben, si vous arrêtez tout ce qui n'est pas bien, vous pouvez vous suicider. Enfin, ne faites pas les gars. Hein. Vous suicidez surtout pas. Hein. Mais c'est logique. Hein. Et je vous dis, un défaut des chrétiens, surtout des cathos qui sont propres sur eux, comme vous, enfin, j'espère, enfin, etc., ou des religieux encore plus, les dominicains n'en parlons pas, c'est le perfectionnisme. Alors là, c'est hallucinant, quoi. Ah, il y a ça qui... Bon, attends. Ah, y a, ah, mais oui, mais on peut... Ah oui, mais attends, mais la vie, c'est 85 ans, avec simplement 16 heures de veille par jour. Hein, bon. Donc même si on... Voilà, on n'arrivera jamais à tout faire, les gars. Une fois qu'on mourra, il y aura plein de choses qu'on n'aura pas encore le temps de faire. Hein. Donc attention au perfectionnisme. Hein. Donc il ne faut pas arrêter de faire ce qu'on fait mal. Sinon, on arrête la vie. Bon. Et puis l'esprit de foi. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'il faut exercer. Et demander à Dieu d'augmenter en nous la foi. C'est la part la plus importante. L'oraison est un exercice actif de la foi. La prise de conscience de l'exercice de la foi qui est essentiellement une nuit. D'ailleurs, le traité fondamental de saint Jean de la Croix sur l'oraison, enfin, comporte deux parties. Une partie ascétique plus qui est la subida, la montée, qui insiste plus sur un aspect où l'homme peut agir. Et un autre aspect qui décrit la réception du mystère de Dieu en nous qui est la nuit, la noche. Et beaucoup de gens arrêtent parce qu'ils s'imaginent autre chose. Ils s'imaginent des... je sais pas quoi. Ils s'imaginent qu'on se sent bien. Bah, quelquefois, on se sent bien, mais tant mieux. Bah, c'est pas tellement... bon. Mais on se sent bien autant qu'il faut. Mais souvent, on se sent pas bien. Mais c'est la nuit, attention, très important. Et ça, il y a une erreur fondamentale, je crois, de beaucoup de chrétiens qui vient, je sais pas de quoi, du rationalisme ou d'une espèce d'hédonisme spirituel. J'arrête de prier parce que je me sens pas bien. Bah écoute, non... au contraire, regardez les exemples dans l'évangile, les lépreux, tous ceux qui obtiennent des trucs invraisemblables, c'est des mecs complètement cradins, quoi. Des lépreux, des hachés, des espèces d'inspecteurs des finances horribles, là, je pourrais être comme exemple aujourd'hui, enfin, de gars qui sont des exacteurs professionnels, c'était le cas de Lévi, Matthieu, hein, un gars qui était exacteur professionnel, qui prenait le fric des gens avec la commission, quoi, entre les deux. Et les Romains ne regardaient pas trop la commission, ils voulaient le total qui rentre à Rome, donc c'est ces gars-là qui sont pris. Donc vous voyez, c'est un peu lamentable de se dire oh, je ne suis pas assez mignon. Donc. Mais c'est une erreur très très forte, ça. Qui fait que le christianisme devient un truc pas motivant. Quoi. Donc non, c'est pour les pécheurs. Hein. Justement, quelquefois, regardez, même Saint Ignace de Loyola, ou Saint Dominique, il a toujours été nickel, hein, d'accord, mais Saint Ignace, bah, c'était quand même un sacré. Pas un comte d'Authier, parce qu'on va pour un basque, mais oui, c'est quand même un gars, il était surtout occupé de trucider des Français. Hein. Bon, parce qu'à l'époque, il se battait contre eux, quoi. Bon, il a une conversion, et combien de types comme ça, extraordinaire, qui est vraiment Saint Paul. C'est un gars, son seule idée, c'était de ligoter des gens pour les emmener, les lapider. Enfin, c'est incroyable. C'est ces types-là qui sont pris, mais c'est des mecs qui avaient du punch, quoi. C'était pas des mous de la tronche, quoi. Enfin, je crois qu'on est. Non, mais. Vraiment... Ah oui, mais alors vous m'écoutez, vous me dites oui, mais ça c'est le père parce que lui il a un tempérament un peu fort, mais moi je suis très doux. Non, ça vaut pas, hein, je connais votre excuse. Hein. C'est spirituel. Hein. En fait, les soi-disant mous et tout et doux, et ils sont d'une force redoutable. Même et les dames aussi, hein, donc attention. Faut pas s'excuser, non, le tempérament c'est une chose, la spiritualité c'est une autre. Hein. On est tous appelés à être des combattants de Dieu. La confirmation c'est un combat. Hein. Donc attention. Alors maintenant, bon, après, il y a le déroulement de l'oraison. On va simplement donner les grandes étapes. Hein. Ben, vous lirez, parce que tout est marqué, ça vous fera des petits sujets de l'oraison, d'ici Pâques et après. Hein. Le début de l'oraison, c'est une mise en présence de Dieu. En fait, c'est une mise en présence de la réalité. Je me mets en présence de Dieu, ça veut dire quoi? Je rentre dans le réel. Je descends. Je sais pas, il y a un livre sur la fin du monde, Le Maître de la Terre de Benson. Et le dernier pape est un jésuite dans ce livre-là. Non, mais ça me vient, j'ai pas calculé mon effet. Hein. Et c'est un livre magnifique. Jean de Menveux, qui est décédé malheureusement, qui était très cultivé. Il est mort à 40 ans sur sa moto. Donc, les 105 orphelins, donc les gars qui font de la moto, attention. Bon, moi j'ai mis un courrier électronique à trois de mes routiers en disant qu'il était marié et qu'il était fanat de moto après la mort de Menveux. Mais enfin, ce neveu très cultivé me disait mon oncle, qui avait lu tout, et il me disait, il y a trois livres très intéressants, qui sont des livres de théologie et de politique fiction, c'est 84 d'Orwell, Le meilleur des mondes, et le maître de la terre de Benson, qui est en fait le meilleur, je crois, des livres sur la fin du monde. Et la fin du monde, il y a un pape jésuite. Bon, c'est pas pour vous dire qu'il va y avoir la fin du monde. Hein. Ça, je m'en tamponne complètement. Et bon. Mais ce pape jésuite, à un moment donné, on décrit comment il fait oraison. Je crois que c'est dans ça ou dans Elijah, c'est un autre livre de théologie fiction qui a été écrit par un Américain, très intéressant aussi, où il y a justement un des deux témoins qui vient prêcher contre l'Antéchrist. Et alors il descend lui-même, on décrit avec sa formation ignatienne, comment il descend lui-même, je crois que c'est dans le Maître de la Terre de Benson, il descend pour prier, pour se protéger, pour avoir la force de lutter contre l'Antéchrist. Et c'est en Angleterre qu'il fait ça. C'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Il se purifie, il descend en lui. Et c'est également décrit dans les livres qui racontent la vie des jésuites qui étaient envoyés comme missionnaires clandestins du temps du rideau de fer en URSS. Il y a un jésuite qui a écrit un livre et il décrit comment il descendait en lui-même dans la prison, hein, parce qu'il était en prison, pour trouver cette force. Il y a beaucoup de témoignages comme ça sur les gens qui étaient dans le goulag ou dans le laokai, comme quoi l'oraison vous rend invincible, si vous voulez. Enfin, du moins invincible, vous n'apostasiez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire oraison, parce que ça peut nous arriver d'être confronté à ça. Ou bien on reste avec le Christ, ou bien on apostasie. Donc voilà, le début de l'oraison, on se met en présence de Dieu, et c'est vrai que les choses physiques peuvent nous aider, une belle croix, une icône, une métanie, un signe de croix bien appuyé, le regard sur une belle image qui nous parle, etc. Voilà, bon. Et par rapport à Dieu, vous voyez, c'est ce que je crois que je l'ai mis dans le résumé, il y a deux attitudes très importante. Là, il y a la confiance et le respect. Et il ne faut jamais lâcher les deux. La confiance et l'amour, hein, c'est un Dieu de miséricorde, et le respect parce qu'il est infini. Et ça, vous trouvez ça chez Saint Ignace très fort, les deux. C'est très important, ça. Parce que moi, je constate qu'il y a des pseudo-chrétiens ou des demi-chrétiens qui passent à l'islam, au judaïsme pratiquant, parce qu'ils disent, vous, les chrétiens, pour vous, vous vénérez plus Dieu, vous adorez pas Dieu, Dieu n'est pas transcendant, Dieu n'est plus qu'un copain. Et donc, c'est une fausse image du christianisme et il ne faut pas l'accepter. Hein. Dieu est chez Jésus-Christ incarné, donc il est notre frère, mais il est Dieu, d'abord. Dieu est Dieu pour tout le monde. Hein. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est le début de l'oraison. on se met dans la réalité, voilà, on prie Saint-Esprit, voilà, chacun rentre à sa façon, mais dans le respect, dans l'amitié. C'est un moment de liberté aussi, c'est un moment où on est bien quand même. C'est vrai que. Moi, je crois que les retraites, c'est un moment de bonheur aussi. Hein. De bonheur, quelquefois, bon, un peu. Faut le payer, c'est sûr, mais c'est un moment de bonheur profond. Moi, je connais. Quelquefois, on a des religieux qui ne restent pas chez nous, et c'est, enfin, ou dans d'autres communautés, c'est pareil. Et quelquefois, des années après, ils vous disent le plus beau moment de ma vie, c'est quand j'étais chez vous. Quoi. Bon, évidemment, c'est vu en quel état. Mais c'est vrai que les retraites, tout le monde peut dire ça. C'est vrai que la retraite, c'est un moment, bah, on est avec Dieu, voilà. Et Dieu est bon, quoi. C'est-à-dire que les humains sont sympas, mais quand même, ils ont beaucoup de défauts. Enfin, là, je ne les développe pas parce que vous les connaissez. Alors après, il y a le corps de l'oraison. Donc, il y a une échelle. Alors là, les différentes écoles. Moi, je suis une école plutôt patristique et monastique, si vous voulez, ou carmélite. En fait, ça se retrouve. Je crois qu'il y a... Bon, on se retrouve toujours. Hein. Que ce soit les grandes écoles patristiques et ensuite qui ont été un peu revécues par Saint François, Saint Dominique, ou que ce soit les ordres plus modernes, les carmes et les jésuites, surtout les carmes, on retrouve quand même une grande dynamique, vous voyez, lecture, méditation, invocation, contemplation, avec des accents différents, les carmes insistant beaucoup sur la contemplation, nous aussi dominicains, les jésuites peut-être plus sur la méditation, les bénédictins sur l'ensemble, sur la lecture, peut-être la lecture divine. Mais bon, ça c'est toujours là. C'est, en fait, si vous voulez, il y a une sagesse quand même extraordinaire. Le christianisme, c'est vraiment formidable. Et moi, je suis de plus en plus content d'être chrétien, parce que c'est quand même un truc absolument... Ces types que je vous survole, si vous voulez, des types qui étaient des génies, hein, qui étaient quelquefois des chefs d'entreprise, des chefs d'armée qui sont partis, fondés la Chartreuse, et qui ont condensé leur doctrine, qui ont écrit des trucs merveilleux. Quand vous lisez les livres des Chartreux, là, actuellement, il y a un livre, Amour et silence, un livre qui est un... Bah, c'est un livre qu'on doit lire à genoux, quoi. Le gars qui a écrit ça, visiblement, c'est un Chartreux de chez Chartreux, quoi. Et comme ça, il y en a plein. Hein. Donc là, voilà, ce que je vous mets, c'est Guigues le Chartreux. Mais en fait, ça retrouve la grande ligne patristique. Et à l'origine, c'est les pères du désert. Hein. Beaucoup de choses viennent de l'Orient. Ça, les Orientaux sont contents quand on le dit. Hein. Beaucoup de choses viennent de l'Égypte et de la Palestine, hein, de la Syrie. Enfin. L'origine de la vie monastique et de la doctrine de la contemplation et même de la vie religieuse, c'est l'Orient. Hein. Et ensuite, avec Cassien, ça passe à l'Hérins, au sud de l'Europe, et Saint-Benoît, et ensuite l'Europe. Mais c'est quand même important de savoir ça. Hein. Bon. Alors, la lecture, donc, il y a un temps de recherche de Dieu. Donc voilà, il faut lire pas trop peu non plus. Tous les livres sont bons, privilégiez les évangiles. Mais Sainte Thérèse d'Avila disait que pendant longtemps, elle n'a pas pu faire oraison sans avoir l'appui d'un livre. Alors, autrefois, dans le 19e, on faisait lire la veille un petit morceau d'un texte. Bon, ça, c'est pas obligé, nous on fait pas ça. À l'oraison, le matin, les frères, soit ils prennent la messe du jour, soit ils prennent un livre de spiritualité, soit l'évangile, et puis à partir de là, on lit un peu. D'abord, on se met en présence de Dieu, et ensuite on lit. Mais c'est très important la lecture. Hein. Si vous n'arrivez pas à faire oraison, vous pouvez au moins lire. Ceux qui n'arrivent pas à faire oraison, qu'ils fassent un quart d'heure de lecture. Lecture calme. Calme, doucement, doucement. Voilà, vous lisez. Tantôt, vous arrêtez. Voilà, vous accueillez les choses. Ensuite, la méditation. Là, c'est une réflexion. À partir de ce que vous lisez, bon, vous pouvez avoir des réflexions qui s'élèvent en vous, qui sont traversées par des distractions, d'accord. Mais notre esprit, je vous ai mis une belle citation de Saint François de Sales, hein, l'esprit part des saints mystères, on exerce la foi, on cherche à voir le... Si vous êtes parti d'une scène de l'évangile, vous avez eu l'évangile du matin, ou bien vous avez fait la retraite du rosaire, qui est une perfection qui manque à plusieurs d'entre vous. Bon. Mais qui sera, je pense, bientôt acquise. J'en prêche une là début mai, dans un très beau cadre, très bien. Enfin, il y en a régulièrement. Donc, dans la traite du rosaire, on vous met sous les yeux une scène d'évangile, le mystère du rosaire. Et on vous dit, lisez l'évangile. Oui. Mais on vous dit de lire l'évangile comme une icône. Une icône, c'est pas simplement un truc technique avec une beauté artistique. C'est quelque chose qui nous porte vers le mystère dans lequel elle baigne. Elle baigne dans le mystère parce que l'iconographe l'a fait avec des prières, avec du jeûne, avec des règles précises, etc. C'est un sacramental, l'icône. Hein. Eh bien, l'évangile, ou la méditation dans la retraite du rosaire ou ailleurs, c'est aussi un sacramental. C'est vous lisez un bout d'évangile ou un texte de Sainte Thérèse d'Avila, etc., et vous le lisez dans la lumière de Dieu. Dans une icône, vous avez souvent de l'or autour de la Sainte Vierge. Tout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'or de l'incréation. C'est-à-dire que l'incréation, c'est que c'est Dieu, la Trinité, qui crée les choses. Vous avez, par exemple, la fameuse icône de la Trinité de Roublev. À mon avis, c'est la plus belle. Je vais bientôt faire une méditation sur la Trinité pour des anciens musulmans. Je ne sais pas par quoi aborder. Mais je crois que je vais leur mettre sous les yeux l'icône de Roublev, qui est un iconographe russe du 15e siècle, je crois, qui a fait vraiment, à mon avis, ce qu'on peut faire le mieux pour la Trinité. C'est trois anges et trois anges d'Abraham, du chaîne de membrée d'Abraham. Et le simple mouvement, l'attitude, la disposition, les gestes des mains des anges, chacun symbolise le Père, le Fils et l'Esprit, c'est porté dans la lumière de Dieu. Oui. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'anecdote que j'étais au Mont Athos à une époque où, je ne sais pas, c'était peut-être mon deuxième séjour, donc j'avais la foi à ce moment-là, et on voulait rentrer dans une, peut-être dans le catholicon, dans l'église principale d'une lavre, d'un monastère pour voir des icônes. Alors on m'a demandé au pope de nous ouvrir. Alors il nous a engueulé comme du poisson pourri, du moins c'est ce que j'ai compris, c'était un mélange d'allemand et de grec, mais il m'a bien engueulé quand même, ça j'ai bien retenu. Voilà. Comme quoi il ne fallait pas voir les icônes, mais les contempler. Donc nous étions de sales touristes occidentaux qui voulaient voir les choses au-dessus de les contempler. Et j'ai trouvé que c'était très fort. C'est vrai qu'il faut les contempler. Et l'oraison, c'est ça, c'est que vous lisez l'évangile, mais quand vous lisez l'évangile, le diable aussi, l'évangile, il est là sous votre... Il lit comme vous. Il est très malin, le diable. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas ce que vous voyez. Ou l'hérétique, le théologien hérétique, moderniste, par exemple. Dès qu'on peut faire de la polémique, Dominicain va mieux. Bon, le théologien hérétique, il est comme le diable, il voit l'écorce, mais il ne voit pas. Il ne voit pas la substance. Est-ce que nous, tac, même si on est moins fortiche théologiquement, on voit c'est Dieu qui nous parle dans notre cœur quand on lit. Ouais. Et donc on est dans une ambiance tout à fait différente. Ce qui fait qu'on peut faire une méditation. Hein. Alors ça, c'est la foi qui s'exerce surtout. Et si on est impuissant à méditer, on revient à l'écriture. Bon, parce qu'on est trop fatigué, ou bien, voilà, ou une sainte présence de Dieu, ou bien on récite notre Père comme faisait Thérèse d'Avila. Parce qu'elle ne pouvait pas, elle était trop fatiguée, elle était bloquée. D'ailleurs, c'est un des signes pour le passage à la contemplation infuse. On est bloqué dans la méditation. Bon, et donc elle disait le pater. Mais bon, il y a beaucoup de ressources quand même. Hein. Donc vous voyez, lecture, méditation. Et une fois qu'on s'aperçoit que vraiment on déraille trop dans la distraction, on revient à la lecture. Vous voyez. Mais alors, troisième élément plus important, c'est l'invocation. En fait, l'oraison, c'est on dit des choses. On les formule, on ne les formule pas. Mon Dieu, je vous aime. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Ou votre formule à vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, que tu gagnes des salauds. Enfin, vous ne dites pas ça comme ça. Mais... Bon, un truc plus poétique, voilà. Ouais, un truc, voilà. Vous dites rien, mais paf, vous avez vos trucs à vous, quoi, vous voyez. Un truc qui vous a touché, quoi. La parole de Jésus à la Samaritaine, c'était l'évangile de dimanche dans le rite actuel, dans la forme ordinaire, pas la Samaritaine, mais la forme adultère. Hein. Bah, il ne pêche plus. La parole du Christ lui a donné la force de ne plus pécher. Il ne faut pas oublier cette parole-là. Hein. Bon. Donc voilà, voilà. Et alors là, on invoque Dieu. Hein. Seigneur, faites que je vous vois. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà, je m'abandonne à vous. Bon, vous dites les trucs que vous voulez dire. Quoi. Bon, c'est amusant parce que quelquefois, il y a des prêtres qui sont un peu sourds. Et quand ils sont vieux, on les entend prier. Ça m'est arrivé une fois. Pendant la messe, au moment de la consécration. Ah mon Dieu. Et quand je pense à tous les péchés que j'ai faits, quand ils étaient un peu sourds, ils ne se rendaient pas compte qu'ils disaient ça tout haut. Bon, mais c'est très touchant. Quoi. On avait un père dominicain qui faisait son action de grâce à voix basse pour lui, mais à voix haute pour nous. Il était sourd comme un pot. Alors nous, on était au bord des larmes tellement c'était beau. Quoi. Mais là, le 85 ans qui a consacré sa vie, quoi. Un jour, je lui ai dit, mais mon père, ça fait combien de temps que vous lisez la somme la somme, c'est la somme de théologie. Mmh. Précise pour les ignorants. Hein. De saint Thomas d'Aquin, bien entendu. Puis il a réfléchi, il m'a dit, oh, je crois que ça doit faire 62 ans. Quoi. Donc c'était des gars. Puis en même temps, avec un sourire. Enfin, oui. Et le gars, dans son action de grâce, voilà, il disait des choses. Je ne vous dirai pas quoi, je me souviens plus précisément. Mais c'est très beau. Quoi. C'est nos petites expressions à nous. C'est un moment vraiment de liberté, hein, l'invocation. Bon. Et ensuite, la contemplation. Alors ça, c'est le terme, c'est le plus important, mais c'est ce qui est le moins dans notre domination. Hein. La contemplation, c'est un regard d'admiration porté sur le mystère. sous l'influence de l'esprit. Et qui est finalement beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Même s'il est très bref. Moi, j'en suis persuadé. J'ai découvert le père Garrigou Lagrange, donc un grand dominicain qui a remis en vigueur ça dans les années 20 à 60, hein, et qui a gagné son combat, parce que maintenant tout le monde est à peu près d'accord. Tous les chrétiens, par le baptême, sont appelés à la contemplation infuse. C'est-à-dire, sous les dons du Saint-Esprit, ce regard d'admiration porté sur le mystère, même s'il est très bref, par le don d'intelligence, de sagesse et de science. Et donc là, évidemment, c'est quelque chose de bref. C'est, voilà, quelques instants, le regard plane, il y a une profondeur, il y a quelque chose là qui... D'ailleurs, moi, je suis persuadé que le peuple chrétien est beaucoup plus contemplatif qu'on ne le croit, parce qu'il vous dit parfois des choses qui ne peuvent venir que de l'oraison. Mais le pape a cité certaines choses sur la confession, là, récemment, qu'il a entendu dire à des abolites, à des vieilles, petites grand-mères, là-bas, à Buenos Aires, et en fait, c'est des choses que les gens reçoivent dans l'oraison. Je vous ai raconté que j'avais prêché des premières retraites du rosaire à un paysan de la région de Rennes. Et à l'époque, on prêchait chez nous, il avait bien suivi. Et puis à la fin, il vient me voir, il dit « Mon père, oui, c'était bien, c'était intéressant. Moi, tout ce que vous avez dit, je le savais déjà. » Je dis « Bon, c'est bon pour l'humilité. » Il dit « Oui, parce que je dis mon rosaire tous les jours. » Alors là, ça m'a drôlement encouragé. Je me suis dit « Bon, ma retraite, elle n'est pas fausse, quoi. Si ce type qui dit son rosaire tous les jours... retrouve, enfin, moi je lui ai formulé ce qu'il vivait lui-même sans pouvoir peut-être l'exprimer. Ouais, c'est quand même magnifique, quoi. Hein, c'est bien. C'est bien le rosaire. Bon, la contemplation. Alors, je vous ai mis une citation, je pense, de Bossuet, que vous lirez, qui est très belle, dans un texte absolument sublime, qui s'appelle Les élévations sur l'évangile. Alors ça vous délecte, parce que c'est un français, le grand français. Et en plus, je crois que Bossuet était vraiment un homme de prière. Il a su exprimer ça, quoi. Le fait que l'esprit se tait parce que Dieu est au-dessus de la formulation. Et la conclusion du plus grand, d'un des plus grands textes de théologie mystique, qui est précisément, s'appelle la théologie mystique de Denis, le pseudo-aréopagite, c'est « Je vais maintenant honorer Dieu par le silence ». Oui, nous allons, on a dit ce qu'on pouvait dire, et maintenant, ça se termine par les paroles qui évoquent le silence. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a exprimé les choses... Il n'y a que l'environnement du silence qui peut porter la prière. C'est pourquoi dans le rite latin traditionnel, le canon est en silence. C'est la loi fondamentale. Chez les Byzantins, c'est un peu différent, mais enfin, vous avez l'iconostase qui exprime ce mystère. Chez les Latins, dans l'ancien rite que je pratique, la forme extraordinaire, c'est le silence. Et de fait, c'est là que des choses peuvent se vivre, si vous voulez, sans être exprimées. En conclusion, parce qu'il est temps de conclure... Avant les questions, la conclusion, on remercie Dieu, parce qu'on a été un certain temps avec lui, hein, ce qui est une belle chose, hein, parce que, imaginez-vous, hein, moi je pense souvent aux gens qui meurent. Chaque minute, il y a des dizaines, des centaines de gens qui meurent. Et je pense à cette phrase d'un des fusillés de 45. Qui a été assisté par un père dominicain, père Boucberger, et qui lui a dit « Je suis heureux ». Il était fusillé. Hein. « Je suis heureux, Raymond. » Il disait ça, Raymond Boucberger. « Imagine-toi que j'aurais pu mourir comme un chien sans un regard sur ma conscience. » Donc là, il s'était confessé, il s'était préparé. Il avait prévu le dernier clin d'œil, son confesseur qui était un jésuite. Là, en cause. Pour lui qu'il l'a préparé, mais c'est le jésuite qui l'a absolu. On se partage le boulot. Quand même. Et paf, et après, pouf, donc c'est pas lui qui a commandé le feu du peloton. C'est magnifique, quoi. Et nous avons la chance d'anticiper l'éternité dans leur vie. Alors qu'il y a tellement de gens qui meurent. Moi, je pense souvent aux catastrophes et tout. Est-ce que les gens ont pensé, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que ça signifie? Oui, il faut. Vous savez, vous avez un rôle de suppléant, ces chrétiens. J'en parlais avec Mohamed Christophe Bilek, là, tout à l'heure, hein, qui nous fera la conférence de Café Caté, si Étienne est d'accord, et Thibault. Ça sera sur des chrétiens se convertissent de l'islam, mythe ou réalité, en octobre. Enfin, on mettra ça au point. Mais en tout cas, donc, je parlais avec lui de ça, et voilà, on tombait bien d'accord sur cette richesse extraordinaire d'être conscient de pouvoir vivre avec Dieu ces quelques instants d'intimité et de prendre possession, si vous voulez, de notre rapport avec Dieu. Dans l'oraison, c'est ce qu'on fait. Alors même si après, bon, on meurt brutalement, on aura fait oraison. C'est quand même pas rien. Et Dieu le voit au moment où on est jugé. Hein, les moments qu'on lui a donnés seront présents, nous accompagneront à l'instant où nous rentrerons dans l'éternel horizon de la vision béatifique. Je vous remercie de votre attention. Alors, y a-t-il des questions ? Thibaut.
Est-ce qu'il y a une place pour l'oraison dans la vie spirituelle, par exemple, des enfants ? Parce que ça a l'air quand même très, je dirais, ardu en description. Est-ce que pour les petits-enfants, c'est quelque chose qui existe ou est-ce que c'est forcément pour les confirmer ?
Je pense que c'est plutôt pour les confirmer. Mais je sais qu'il y a des prêtres qui font, c'est plutôt devant le Saint-Sacrement, je pense un peu, qui font des petits temps d'adoration au Saint-Sacrement pour les tout-petits. Ça, je crois que c'est bien. Parce que là c'est devant le Saint-Sacrement, ça irradie, quoi. Et peut-être, sinon, leur raison formelle, c'est peut-être un peu difficile pour eux. Mais je crois qu'ils font raison, en fait. Vous savez que Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est raison sans savoir, enfin. Ils ont une forme de raison, ça c'est vrai. D'ailleurs, les questions qu'ils vous posent au catéchisme, hein, ça montre qu'ils ont un contact. Mais bon, peut-être qu'on ne peut pas leur expliquer tout ce que je viens de vous dire et qui est un résumé de ce qu'on explique dans les écoles de raison. Parce qu'en fait, la raison, c'est un chemin. Mais je crois qu'il y a une place quand même au moins pour devant le Saint-Sacrement. Pas de questions sur l'oraison. Ah, si, une question.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui parlent de méditation dans les méditations transcendantales, tout ce qui est méditation qui a rapport avec le zen, avec le yoga, avec l'hindouisme, etc.
Là, je crois que d'abord il faut se documenter un peu pour savoir de quoi ils parlent. Parce qu'il ne faut pas rejeter comme ça et condamner. Il y a des techniques naturelles qui sont des techniques. Mais justement, je crois que la grande différence entre les ascèses extrêmement orientales, pour simplifier, et la mystique chrétienne, c'est que nous disons l'élément fondamental, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que dans les mystiques ou les ascèses extrêmement orientales, c'est une démarche ascético-philosophique qui est très impressionnante. D'ailleurs, il ne faut pas mépriser, si vous voulez, mais qui peut être extrêmement dangereuse aussi. Parce que le rapport avec nous-mêmes, si Dieu n'est pas là, je pense qu'il peut être suicidaire. En tout cas destructif. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont employées par eux. Et alors il y a aussi le danger que se mêlent aussi, dans certains cas, des influences qui sont peut-être démoniaques. Ça, c'est pas le cas du zen pur et simple, si vous voulez, mais il peut y avoir aussi, c'est mêlé quelquefois, de choses qui sont plus ou moins dans ce qu'on appelle les sectes, enfin en Indochine en particulier. Là, on se demande un peu où on se trouve, s'il n'y a pas une part de diabolique. Ben, il faut regarder ce qu'ils font, en tout cas leur dire qu'en tout cas, ben, écoutez, bon, ben, vous avez votre technique de concentration, très bien. Mais pour nous, c'est qu'un instrument. Dans la mesure où c'est bon, ou c'est pas mauvais, c'est qu'un instrument. Il ne faut pas, je pense, se repousser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers. Et si on présente le Zen comme une métaphysique, là, ça peut être dangereux. Parce qu'elle fait abstraction de l'amour, je vais vous dire. C'est ça le gros problème. C'est l'élément que Dieu est un amour personnel n'est pas présent dans la pensée de Bouddhisme. Oui.
Les musulmans, vous en parlez tout à l'heure, je ne connais pas trop la religion musulmane, mais est-ce qu'ils ont des images dont ils font raison ? Est-ce qu'ils n'ont rien, en fait ? Ils se mettent à genoux ? Moi, je ne vois pas quand les croissants.
Non, il n'y a pas d'image. Normalement, il n'y a pas d'image. Hein. Il n'y a pas d'image, parce que Dieu est Dieu. Ne
voilà,
pas...
Dieu, pour eux, il est là, mais.
Ce qui nous sépare d'eux, je crois, fondamentalement, c'est l'incarnation. Donc nous, le visage du Christ, c'est le visage de Dieu. Oui.
Mais
Donc ça change tout. Mais c'est vrai que Dieu est invisible. Ça, on est d'accord avec eux. Mais ça va, plusieurs d'entre eux éprouvent un vide et une insatisfaction parce que cette impersonnalité leur pèse dans certains cas. Je me trompe, Maurice? Maurice va nous éclairer. C'est un spécialiste de l'islam.
Ajouter un petit mot, c'est que les attributs de Dieu en islam sont très, très nombreux. Et aucun attribut n'implique pas l'amour. C'est là une différence très importante. Malheureusement, il y a ces attributs qui sont paradoxaux. Pourquoi? Parce que parfois on dit Allah est gentil, peut faire le bien, mais en même temps, il est vengeur. Il y a au moins une dizaine d'attributs qui détruisent totalement la substance divine de Dieu. Et ça, c'est très grave. Si vous pouvez vous référer à ce qu'on appelle les 99 attributs d'Allah en islam, eh bien, il y a une dizaine qui sont abominables, qu'on ne peut pas accepter. Reste une question, c'est que en islam, c'est vrai que Allah est invisible, comme pour les chrétiens, ça c'est sûr. Mais la question, Allah est une image lointaine. Il n'a aucun rapport de proximité avec l'être humain. C'est pourquoi il y a en permanence ce sentiment de crainte, de peur. En permanence, lorsque quelqu'un fait quelque chose, on lui dit « crains Allah ». Crains Allah, cela veut dire qu'il y a toujours ce sentiment de peur, ce sentiment de terreur. Même dans un certain passage du Coran, Dieu pourrait être assimilé à un être terrifiant.
Terrifiant.
Terrifiant, surtout lorsqu'on dit Allah guide celui qui veut et Allah égare celui qui veut. Et ça, c'est dramatique chez les musulmans. Parce que dans le même livre, dans le Coran, on a la même image de Satan. Les mêmes expressions, Satan dans le Coran, égare celui qui veut et guide celui qui veut. Eh bien, on se pose la question, quelle est la différence entre l'image d'Allah dans le Coran et celle de celui de Satan?
Est-ce que justement, je crois que les musulmans parlent souvent de Allah miséricordieux. On parle aussi de Dieu miséricordieux dans le christianisme. En quoi cette miséricorde, elle s'articule, c'est un petit peu une question pour les deux, mais en quoi cette miséricorde, elle s'articule différemment sous le mauvais choix de mots en français, je ne sais pas trop, dans les langues originales. Mais...
Maurice, c'est mieux placé.
Il
était professeur à l'université de...
Non, je ne suis pas, voilà, mais je travaille un petit peu sur pas mal de questions islamiques. C'est que en islam, il y a Allah, le clément, le miséricordieux. D'ailleurs, ce sont deux attributs qui n'ont rien à faire avec l'islam. Ce sont deux attributs qui viennent de la théologie chrétienne des Araméens. Eh bien, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont deux mots araméens qui ont été importés par des musulmans, qu'on a ajoutés. Mais comment peut-on d'un côté dire un Dieu miséricordieux et clément, et d'autre part, un Dieu qui incite à la violence? C'est là le plus grand paradoxe qu'on trouve dans la théologie islamique. Et c'est pourquoi on a besoin de nous informer davantage de l'islam, parce que ce qu'on nous enseigne maintenant, malheureusement, ce n'est rien d'autre que pour nous occulter toute la vérité de l'islam.
Alors, on peut peut-être, Maurice, je peux peut-être signaler que le 22... mars à Saint-Ferdinand des Ternes, Mohamed Rahouma, qui est un doyen de l'université égyptienne, qui s'est converti au christianisme, qui est protestant, qui vit aux États-Unis, vient à Paris, vient demain, Maurice va le chercher à l'avion, il fera une conférence pour présenter son itinéraire de conversion. À Saint-Ferdinand des Ternes, le 22. Donc c'est intéressant. C'est une pointure, hein, ce type, il n'a qu'un gros bouquin, et c'est incroyable, il était doyen de son université.
Je ne sais pas si vous en avez encore. Non, il y en a encore là. Il y en a combien?
C'est
passé encore.
22 novembre, Saint Ferdinand des Ternes.
Bon, je veux faire seulement un petit mot sur ce monsieur. Je ne le connaissais pas personnellement. J'ai fait sa connaissance uniquement par téléphone. C'est que j'ai eu son témoignage en langue arabe il y a déjà 7-8 ans. Il a, après sa conversion en 2001, juste après le 11 septembre, eh bien, il a écrit en 2002, en un mois, son témoignage. Est-ce que je prends votre temps, de votre temps?
C'est, non, c'est bon, mais il y aura peut-être encore une... Parce que quelqu'un m'avait posé une question sur le pape.
Oui.
Donc, je vais peut-être répondre à cette question, et puis après, peut-être, on peut vous pourrez compléter tout à l'heure. D'accord. Donc, non, mais quelqu'un m'avait posé au début, oui. Et j'ai dit, je craignais qu'on me la repose, donc je répondrai à la fin. Alors, c'était quoi la question?
C'était une analyse...
L'analyse de...
Une analyse sensée et... J'allais pas dire politiquement correct, mais éclairée de la personnalité du nouveau pape.
Ben, ça, je peux pas la faire, parce que je le connais pas assez... Mais ce que je trouve que l'Église est marrante, quoi, parce que nous sortir que personne n'attendait, c'est impressionnant, très impressionnant. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les motivations des cardinaux. Moi, j'ai été surpris, comme tout le monde. Je pense que la question, il y a deux éléments qui ont dû jouer beaucoup, me semble-t-il, hein, mais tout ça avec beaucoup de guillemets. Hein. C'est la question qu'il faut, peut-être certaine transparence et nettoyage... financier, j'allais pas dire sexuel, mais humain, dans les structures de l'Église. Mais il faut pas non plus exagérer, si elles sont pas hyper pourries. Hein. Mais bon, il faut un peu un petit coup de karcher quand même. Et il semble que c'est un homme qui a déjà fait ça dans son diocèse, quoi. Et qu'en tout cas, pas de préjugés. Alors, arrivera-t-il à le faire? Parce que tout est très complexe. Hein. On réforme pas les choses comme on veut. Mais je pense que ça a été une des motivations, mais pas la motivation unique. Il me semble que l'autre motivation a été l'évangélisation. Parce que j'ai eu des échos très contradictoires. De, chacun a l'écho de son prêtre argentin. Moi, j'ai eu une demi-douzaine d'échos de prêtres argentins divers. En tout cas, à Buenos Aires, il disait aux religieux, sortez, allez dans la rue, évangélisez. Il est très évangélisateur. Et c'est vrai que les Européens avaient le souci aussi un peu de sortir un peu du marasme et du respect infini des Européens vis-à-vis, enfin infini, excessif de certains Européens vis-à-vis des autorités politiques. C'est quelqu'un qui dit évangéliser et qui n'hésite pas à avoir même une confrontation avec le pouvoir politique à cause de ça. Donc pour dynamiser un peu la vieille Europe, je pense que les cardinaux sont orientés vers lui et peut-être aussi, dit-on, alors là je suis moins sûr, un peu par contraste avec le charisme extraordinaire et impressionnant de Jean-Paul II et l'intellectualité magnifique de Benoît XVI, quelqu'un de plus de franco de port et d'emballage, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, quoi. Et c'est vrai que, bon, il est en basket, enfin, en basket, mais pas loin, enfin, t'sais. Et bon, il est jésuite, donc un jésuite, attention, c'est un vrai jésuite, hein, quoi. Vous êtes étonnés, parce que moi, j'en ai connu, des vrais, hein. C'est des types extraordinaires. C'est du jésuite haut de gamme qui fait oraison, quoi. Donc, à la fois homme de Dieu, homme d'action, et puis il a choisi le nom de François. Et en plus, c'est le premier pape religieux depuis Grégoire XVI. C'est pas le premier pape européen. Il y a eu des papes syriens, dont on ne parle jamais, au 7e, 8e siècle, hein, même encore plus tard. Ce n'est pas le premier pape européen, mais bon, c'est normal aussi que ce soit un latino, vu que la majorité relative des chrétiens est latino-américain. Et je pense que cet élément de simplicité dans l'apostolat a dû peut-être influencer le choix des cardinaux. Alors maintenant, sur sa personnalité à lui, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il se fiche un peu de la liturgie, ce que je regrette, mais beaucoup. Mais est-ce que c'est un tempérament? Je connais bien les jésuites, ils peuvent être très bien. Et la liturgie, il y a un proverbe célèbre qui dit « Jésuita non cantat ». Le jésuite ne sait pas chanter. Il sait faire plein de trucs, mais il chante faux. Bon, alors, ça c'est vrai, bon, ça c'est l'élément qui m'inquiète un petit peu. Bon. Mais ceci dit, voilà, ça, est-ce que c'est un élément plutôt personnel? J'ai appris, parce que grâce aux merveilles d'Internet, on apprend des choses, même quand la tête vous tourne, comme moi, ou assez rapidement, j'ai appris qu'il allait à Buenos Aires, il célébrait la messe byzantine avec un confrère byzantin. Quelqu'un qui aime le rite oriental ne peut pas être intrinsèquement mauvais, n'est-ce pas? Bon, donc voilà, donc je pense qu'on aura beaucoup de surprises dans tous les sens, il fera plein de... je ne sais pas ce qu'il va faire, personne ne sait, et je trouve que c'est formidable, quoi, que l'Église puisse sortir un bonhomme comme ça, de derrière les fagots, que personne n'attendait, qui va faire on ne sait pas quoi, mais... on pourrait résumer, je crois qu'il y a eu un tweet, parce que c'est un nouvel instrument très important au point de vue dogmatique, le tweet. qui a été envoyé par un certain Basile de Coq, qui était « Caramba, le pape est encore catholique, quoi. » Je trouve que c'est génial, quoi. Alors, j'ai pas beaucoup de tuyaux, mais je pense qu'on va pas s'ennuyer, quoi. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut mesurer, parce qu'on a un frère brésilien qui vient de rentrer de Rio hier. Il y a un ami argentin qui vient de rentrer, donc on a des tuyaux assez frais. Et le frère brésilien me disait, il a une santé très faible. Il a un peu moins en moins, il peut faire, il peut pas faire de génuflexion. Il peut se mettre à genoux sur des coussins, mais il peut pas. Donc, autre inconnu. Alors, c'est aussi extraordinaire que le 5 collège ait élu quelqu'un d'âgé, contrairement à tous les pronostics. Donc, moi, je trouve, vive l'Église. Alors, si jamais, alors évidemment, moi, j'ai une petite inquiétude, si jamais on voulait nous je pense pas qu'il le fera, mais s'il mettait des progressistes dans la liturgie qui veuillent remettre en cause ce qu'a fait Benoît XVI, bon, il y aura un grabuge sympathique, hein. Moi, j'ai beaucoup de dévotion pour le pape, mais justement, la vraie dévotion pour le pape, c'est de lui dire la vérité quand il y a besoin. Mais je veux dire, je ne suis pas vraiment inquiet. Parce que je ne sais pas s'il faut être inquiet. Enfin, j'arrive quand même à dormir, quoi. Parce que d'abord, on est un peu habitué, on a fait 20 ans de pas de clandestinité, mais de marginalité, donc on peut recommencer, hein, parce qu'on est quand même assez incassable de ce côté-là, hein, ça, faut le savoir. Donc, le 17 avril, je dois le rencontrer théoriquement. Si le rendez-vous est maintenu, c'était prévu que ce soit Benoît XVI, bon, ça a changé, mais théoriquement, c'est maintenu, donc on pourra changer quelques mots, et comme je parle sa langue, ça peut passer. Mais je ne pense pas, si vous voulez, que ce Saint-Père, qui a l'air comme un homme très saint, très homme de raison, un homme, il va commencer à... C'est un homme qui cherche à donner le maximum de chacun. Donc, s'il voit qu'en Europe, bon, les tradis font du bon boulot, ben, ils font du bon boulot, et puis voilà. Puis c'est tout, puis lui, il va s'occuper peut-être d'autres choses. Et peut-être qu'il y aura des collaborateurs plus négatifs autour de lui. Mais tout est ouvert, il y a vraiment une période très intéressante qui s'ouvre. Il faut beaucoup prier pour lui, et j'espère qu'il va trouver des collaborateurs et qu'il les acceptera, parce que j'ai l'impression que c'est une forte personnalité. Il téléphone à tout le monde directement. On a encore un écho, on a un père qui est à Rome dans une maison, une pension, et la concierge va prendre le téléphone, parce qu'il y a un évêque argentin qui est en pension là aussi. Et on veut parler à l'évêque argentin. Il dit, mais qui le demande? Ah, c'est le père Bergoglio. Non, 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 il n'est pas là, non, il est sorti. Bon, mais alors, mais vous avez parlé au pape, hein. C'était le pape. Il a appelé le pape noir, donc le supérieur général des jésuites, le maître, il l'a appelé. Il appelle le secrétaire, il dit, je vous ai parlé au père Intel. Il dit, mais qui le demande? C'est le pape. Le secrétaire, il n'a pas passé, il croyait que c'était faux. Alors, il a appelé un autre gars, puis finalement le gars, il a fini par faire. Donc il fait tout par lui-même. Alors j'espère que. Je pense que c'est ça l'enjeu. J'espère qu'il va. Il faut prier qu'il trouve des hommes honnêtes, quoi. Parce qu'on a besoin aussi d'honnêteté. Il n'y a pas que le progressisme, l'intégrisme qui compte. Il y a l'honnêteté simple, pure et simple. Et lui, il a l'air vraiment d'être un homme très pur. Et s'il trouve des hommes honnêtes qu'il soutienne, je pense qu'on va avoir des choses pas tristes. Enfin voilà, mon petit truc. Alors attendez, le Saint-Esprit est aussi intervenu dans l'élection d'Alexandre VI Borgia,
oui,
qui avait une maîtresse et tout.
Oui, mais
donc le Saint-Esprit intervient, non, mais les hommes restent libres.
Absolument, mais je ne parle pas de futur, mais y a-t-il eu intervention du Saint-Esprit? Oui.
Dans non, attendez, doucement, doucement. Il y a tout le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit dort là dans le café-café pour me déterminer à venir, même si j'ai de l'arthrose, etc., si j'ai pas envie de venir. Bon. Le Saint-Esprit est encore plus présent pour le collège cardinaliste parce que c'est l'élection de l'évêque de Rome, le successeur de Pierre. Mais les cardinaux restent libres, si vous voulez.
Absolument.
Donc il peut y avoir un pape qui n'ait pas toutes les qualités qu'on pourrait souhaiter, ou qui même ait des défauts, ou même des péchés, mais qui sera un pape catholique. Ben celui-là, il a quand même très pieux, très saint. Mais vous voyez, il faut faire attention quand on simplifie en disant le Saint-Esprit a provoqué aussi, enfin, était là à l'élection de Paul VI, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que le Saint-Esprit a fait de mieux, mais enfin, bon, je suis très prudent sur ce sujet, moi. C'est mon 7e pape, hein.
Et c'est, voilà. Non, mais justement, on peut faire fi de l'intervention du Saint-Esprit,
non,
par
non.
L'orgueil.
Non, mais justement...
Ils sont libres, ils ont l'orgueil de dire, bon, on a une stratégie entre nous.
Non, non, mais je vais vous dire, je pense que les cardinaux... J'ai pas pour eux une dévotion infinie, mais j'en connais un certain nombre. Et je peux vous dire que d'abord, il y a des hommes là-dedans, mais des hommes, hein, et des hommes de pointure aussi. Et puis il y a des prêtres aussi, des vrais prêtres, des vrais évêques. J'en connais un, par exemple, le cardinal Sarah. Vous voyez, il est impressionnant, c'est vraiment un homme de Dieu, cardinal africain. Bon, ils ont voté pour l'immense majorité, en conscience, pour le bien de l'Église. Ce qu'ils ont fait est extrêmement surprenant, mais je pense pas trop qu'il y ait des magouilles. Enfin, il y en a forcément, peut-être il y a toujours quelques traîtres, quelques pourris, mais moi je pense que, du moins, j'en connais, si vous voulez, sur les 115 électeurs, peut-être que j'en connais directement, indirectement une vingtaine. Je peux pas imaginer que c'est des hommes qui... Remarquez une chose, et je vais vous dire un truc, ça vient d'un tradit, donc c'est encore plus important. Je trouve que la papauté fonctionne bien. On n'a pas d'intervention de l'empereur, on n'a pas de... Il y a une liberté depuis 17, depuis juste après la Révolution française, les cardinaux élisent librement le pape. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est quand même assez impressionnant. Et je crois que c'est providentiel parce qu'il y a 1,4 milliard catholiques à diriger et l'Église est vraiment libre dans la direction de ces catholiques. Je ne pense pas qu'il y ait eu je ne suis pas infaillible, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une magouille sordide. Et l'immense majorité des cardinaux a voté en conscience. C'est quand même important à tenir. Et même si vous voulez, même s'il y a des défauts qui se révèlent de ce pape, nous aurons à lui obéir comme successeur de Pierre et aussi à lui dire la vérité en tout respect final. Enfin, ça ne va pas être triste.
Merci, mon père. Maurice,
dernier mot pour terminer, très rapidement.
Très rapidement seulement. Donc, on a résumé, il s'agit de quelqu'un qui était un doyen d'une faculté d'études islamiques en Égypte jusqu'à 2001. C'est en 2001 qu'il a eu sa conversion. Il a écrit son témoignage en 2002 sous un pseudonyme parce qu'il était menacé par sa famille et par le régime égyptien. Parce qu'il était très connu dans la presse, à la télévision et dans les universités égyptiennes. Il a enseigné en Arabie Saoudite, au Yémen et dans plusieurs universités du monde arabe. Donc, lorsqu'il a eu sa conversion, il a été obligé de se réfugier en Amérique. Et c'est là qu'il a écrit son témoignage. J'ai eu le témoignage en arabe, mais on n'arrivait pas à savoir qui était ce bonhomme. Ce n'est qu'en 2009 qu'on a identifié son nom parce qu'il avait écrit le témoignage sous un pseudonyme. Donc, les éditeurs en français, en France, ne voulaient pas publier un livre sans connaître le vrai nom de l'auteur. Donc, j'ai passé 6 mois à chercher dans les paroisses de langue arabe en Amérique, par Internet, pour trouver ce monsieur. C'est au bout de 6 mois, je suis tombé sur une secrétaire dans une paroisse qui m'a dit, monsieur, mais laissez-nous vos coordonnées, on va vous appeler si on trouve ce monsieur. Je me suis dit, sûrement, elle le connaît. Un quart d'heure plus tard, c'est lui qui m'appelle. Donc, c'est depuis 2009 que je suis en contact avec lui. On a réussi à l'avoir et à ce moment-là, je me suis dit, monsieur, votre témoignage est insuffisant pour nous. On ne peut pas le publier tel qu'il est parce que personne ne peut le croire. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous depuis 2001 jusqu'à maintenant? Il me faut un post-scriptum. Une semaine plus tard, le post-scriptum était là. Et là, j'ai découvert des choses étonnantes qu'il a converti une femme américaine qui était islamisé, il a pu la reconvertir au christianisme. 2 ans plus tard, il s'est marié avec elle. Et tous les deux sont consacrés maintenant. Elle travaille avec les Américaines musulmanes converties à l'islam pour les reconvertir au christianisme. Et lui, il travaille avec les musulmans. Il a une émission dans une télévision satellitaire intitulée « Le Christ m'a libéré ». Et c'est le sujet de sa conférence cette semaine, là où il va faire. Donc, c'est son slogan partout, le Christ m'a libéré. Donc, imaginez un doyen qui connaît très bien l'islam de l'intérieur, qui vient nous parler du Christ, et comment il a trouvé que l'islam ne peut absolument pas être une religion céleste. Et j'espère que vous allez avoir l'occasion de le rencontrer vendredi à 20h à l'église Saint-Ferdinand de Nain.
Merci Maurice. Bon retour à tous, n'oubliez pas le...